Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
C'est extrêmement violent, c'est vraiment très violent. Il faudra que je suis écœuré humainement, écœuré. Voilà. C'est facile de dire de loin, c'est parental, on s'en va.
La colère et l'écœurement des salariés Bridgestone de Béthune. Leur usine va fermer, 863 emplois menacés. Assassinat prémédité, trahison, le monde politique s'offusque et promet la guerre à la direction du numéro 1 mondial du pneumatique si elle ne revient pas sur sa décision. Europe 1 vous révélait ce scandale dès ce matin. Certains labos profitent de la pagaille pour faire payer les tests PCR alors qu'ils doivent être gratuits. Dans ce journal également, le procès des attentats de janvier 2015. Témoignage bouleversant de l'imprimeur de Dammartin en Gouëlle. Tour de France, victoire aujourd'hui du Colombien Miguel Angel Lopez, Primoz Roglic toujours maillot jaune. Et puis le foot, match en retard ce soir de la première journée de Ligue 1. Le PSG reçoit le FC Metz et vous êtes sur place, Julien Froment.
Oui, 0-0 à la mi-temps entre le 17e et le 18e de Ligue 1.
A tout à l'heure, Julien, on vous retrouve dès qu'il y a un but. Le temps de demain, soleil partout et température en légère baisse, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris a terminé en très légère hausse, plus 0,13% à 5074 points. Les détails à venir avec Claire Le Maître de Boursier.com. L'interview écho à 22h20. La 5G, c'est pour quand? Emmanuel Dutheil posera la question à Michael Trabia, directeur de l'innovation chez Orange. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Assassinat, prémédité, trahison, le poids des mots est à l'image du choc depuis ce matin à Béthune. Depuis l'annonce de la fermeture de l'usine Bridgestone en 2021, 863 emplois sont menacés, 1500 avec les sous-traitants et les intérimaires. La direction du numéro 1 mondial du pneumatique parle d'une surcapacité de production en Europe, de la concurrence des marchés asiatiques qui cassent les prix. Autant d'arguments qui ne semblent convaincre personne, même au sommet de l'État, on va y revenir. Lionel Gaugelot, vous êtes sur place à Béthune. Cette fermeture, les salariés ne s'y attendaient pas.
Oui, et figurez-vous que c'est par un simple message vidéo diffusé en interne ce matin que les salariés ont appris la fermeture prochaine de leur usine. David, 25 ans d'ancienneté, ne s'attendait pas à une telle issue.
Ben, moi, je suis abasourdi et je suis complètement anéanti là, parce que je savais que l'usine, elle tournait sur trois pattes depuis un certain temps, mais de là à ce que ça ferme, on s'y attendait vraiment pas du tout.
Ici, ces deux dernières années, la production de pneumatiques avait été divisée par deux. Les syndicats dénonçaient le manque d'investissement et des produits inadaptés au marché. Stéphane Le Six, délégué CFDT.
Au niveau qualité, c'était devenu une catastrophe. Au niveau production, c'est devenu une catastrophe. Et on ne voyait plus le directeur, on ne voyait plus de directeur de production. On était livrés à nous-mêmes. Ouais, on s'en doutait un petit peu. Ouais. Pour nous, c'était fait d'avance. Vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il y a la rage, quoi. Donc c'est ce qui s'est passé là.
Un sentiment partagé par Olivier Gacquière, le maire de Béthune.
Profondément, je pense qu'ils avaient pris la décision il y a un petit moment, oui. Et qu'ils nous ont amusés pendant 3 ans. C'est extrêmement violent, c'est vraiment très violent. Il faudra que je sois écœuré humainement. Écœuré, voilà. C'est facile de dire de loin, c'est parental, on s'en va. Faut qu'on discute, faut qu'on regarde. Puissance publique, entrepreneur, pour trouver un plan B, un plan C.
Mais l'idée d'une réindustrialisation du site laisse perplexe. Commentaire d'un salarié, cela fait 25 ans que je fais des pneus et je ne sais rien faire d'autre.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Les salariés de Bridgestone ont reçu cet après-midi le soutien de Xavier Bertrand qui s'est rendu sur place. Le président de la région des Hauts-de-France a dénoncé un assassinat prémédité, prévu de longue date. Au gouvernement, l'annonce non plus ne passe pas. Son porte-parole, Gabriel Attal, a lancé un message très clair à l'issue du Conseil des ministres.
La fermeture de l'usine de Béthune, c'est un choc, mais c'est aussi une décision brutale sur la forme, incompréhensible sur le fond, et une trahison de la confiance que l'État et la région Hauts-de-France ont placée en Bridgestone, en aidant l'usine depuis des années. Bridgestone doit aujourd'hui assumer ses responsabilités plutôt que de chercher des prétextes. C'est l'entreprise qui a sous-investi dans le site de Béthune au profit d'autres sites. C'est cette entreprise qui a été incapable d'instaurer les conditions d'un dialogue social sain. C'est cette entreprise, enfin, qui n'a fait aucune proposition quand l'État et la région Hauts-de-France ont présenté des mesures de soutien dans le cadre du plan de relance.
Jean-Rémy Baudot du service politique nous a rejoint. Jean-Rémy, une telle mobilisation contre la fermeture d'une usine, ce n'est pas si fréquent, sauf que là, ce dossier Bridgestone, c'est un cas un peu particulier.
Oui, parce qu'au sein du gouvernement, à l'Élysée autant qu'à Bercy, on a le sentiment d'avoir tout fait pour éviter le pire et que finalement, eh bien, le pire se réalise quand même. Un conseiller au ministère de l'économie me parle de la colère froide qu'il ressent. On a régulièrement tendu la main à la direction de Bridgestone, me dit-il. Ils ne l'ont jamais saisi. Il faut comprendre qu'une telle entreprise, elle a des échanges réguliers avec les services de l'État. On avait identifié le manque d'investissement, se désole un acteur du dossier. Et cela faisait un moment donc que Bercy proposait des aides pour moderniser le site. Même encore récemment, dans le cadre du plan de relance, en face aucune réponse si l'on en croit Bercy. D'où ce sentiment de trahison dénoncé par le porte-parole du gouvernement et cet alignement de l'ensemble des acteurs politiques, y compris Xavier Bertrand, qui se range du côté du gouvernement, promet des aides si besoin. La crise de Bridgestone, elle n'est pas directement liée à celle du Covid, mais l'État sait que ce type d'annonce risque de se multiplier dans les prochains mois. Il faut donc faire passer le message que l'État est pleinement mobilisé.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Autre fermeture annoncée aujourd'hui, Schneider Electric va rayer de la carte deux sites en France, celui de Saumur dans le Maine-et-Loire et celui de Lattès dans l'Hérault. 160 emplois concernés au total. Par ailleurs, le traiteur Fauchon va fermer deux de ses trois magasins, Place de la Madeleine à Paris. 77 licenciements. Seule bonne nouvelle aujourd'hui côté emploi, le groupe de luxe Hermès va ouvrir une nouvelle maroquinerie en Auvergne à l'horizon 2023. 250 embauches à la clé. Le PIB cette année devrait chuter de 10% cette année, selon le ministère de l'économie qui tablait initialement sur un effondrement de 11,4%. Remont prévu en 2021 de 8%.
Europe Soir, le 22-22-30.
Les lois claires, en théorie, sont souvent un chaos à l'application. Napoléon n'a pas prononcé ces mots dans l'interminable file d'attente d'un labo, mais il aurait pu, tant c'est la pagaille dans les centres de dépistage. Pas de file prioritaire, comme demandé par le Premier ministre, pas de résultat avant plusieurs jours. Alors face à cette situation, certains en profitent. Victor Delande, vous nous le révéliez dès ce matin pour Europe 1, certains laboratoires n'hésitent pas à faire payer ceux qui veulent obtenir des résultats plus rapidement.
Oui, alors que la règle est très claire depuis la fin juillet, n'importe qui peut se faire tester gratuitement, sans ordonnance. Mais contre quelques billets, certains labos font donc remonter votre dossier sur le dessus de la pile. Une pratique illégale, mais qui ne gêne pas ce laboratoire du centre de Paris où je me suis rendu.
On m'a dit qu'on pouvait payer pour des tests plus rapides, c'est possible ça?
Oui, c'est payant.
D'accord, c'est en combien de temps vous les avez?
24-48 heures maximum.
Le montant c'est combien du coup?
Alors juste pour un PCR, c'est 80 hors taxes, 96 euros TTC.
À Saint-Denis, en région parisienne, c'est pareil, 100 euros dans un autre laboratoire. Dans la file d'attente, beaucoup de voyageurs prêts à payer. Difficile de savoir combien de laboratoires abusent, mais cette pratique écœure Lionel Barran, président du syndicat national des jeunes biologistes médicaux.
C'est révoltant parce qu'on se donne à fond pour les patients au quotidien. Tous les laboratoires de France, ce sont des tests qui sont entièrement pris en charge par la Sécurité sociale. Donc le patient n'a rien à débourser. On n'a eu aucun écho de ce type de problème. Mais si jamais il y en a un, il faut que ça cesse immédiatement.
De son côté, le ministère de la Santé que nous avons contacté condamne avec fermeté cette pratique. Et selon nos informations, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été avertie de ces agissements et va enquêter dans les plus brefs délais.
Enquête signée Victor Delande pour Europe 1. Les chiffres de l'épidémie, près de 10 000 nouveaux cas de Covid ont été recensés ces dernières 24 heures. La barre des 31 000 décès a été franchie. Par ailleurs, 81 établissements scolaires et un peu plus de 2100 classes sont actuellement fermées pour des cas suspectés ou avérés. Au procès des attentats de janvier 2015, la Cour d'assises spéciale de Paris s'est replongée dans les trois jours qui ont suivi le massacre de Charlie Hebdo, la cavale des frères Kouachi. Cavale qui s'était terminée devant une imprimerie de Dammartin-en-Goële en Seine-et-Marne. Son propriétaire, Michel Catalano, avait été pris en otage pendant de longues heures par les terroristes. Il est revenu aujourd'hui sur cet épisode traumatisant. Chloé Trion, vous avez suivi cette audience, un témoignage qui a fait ressurgir chez cet imprimeur beaucoup de souffrance.
Oui, Michel Catalano a prévenu à chaque fois qu'il témoigne devant une classe ou une association de ces heures où il a cru frôler la mort à chaque instant, il finit épuisé, vidé. Mais aujourd'hui, à la barre, c'est dans un flot de larmes qu'il a terminé sa déposition après que le président l'ait longuement questionné sur ce qu'il venait de déclarer. Ses souvenirs sont d'une précision intacte. La chronologie des échanges avec les frères Kouachi sous la menace omniprésente des Kalachnikov, son obsession à capter leur regard pour que surtout il n'ait pas l'idée d'aller fouiller l'imprimerie où il avait enjoint son employé Lilian de se cacher. Le café qu'il leur a fait couler, le pansement qu'il a refait trois fois à l'un des frères après un échange de tirs avec les premiers gendarmes arrivés sur place. Et surtout, raconte-t-il, ce calme apparent et ce sang-froid pour sauver sa vie et celle de son employé et pour lesquels il est allé puiser tout au fond de lui-même. Aujourd'hui, Michel Catalano semble encore profondément traumatisé. Mais le plus important, dit-il, c'est la vie, avec une pensée pour les autres victimes, à qui ils souhaitent d'avoir suffisamment de bonheur pour apaiser cette douleur qui les ronge de l'intérieur.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Un jeune de 15 ans en garde à vue après être entré dans un lycée avec un fusil de chasse. Ça s'est passé ce midi à Saint-Médard-en-Jalès, près de Bordeaux. Le mineur a menacé des élèves dans la cour et est ressorti sans avoir fait usage de son arme qui n'était après coup pas chargée. Dans l'affaire Fillon, la justice a fonctionné de façon indépendante et le gouvernement n'a exercé aucune pression sur le parquet national financier. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui l'affirme dans un avis rendu ce matin. En juin, l'ancienne procureure Eliane Houlette avait évoqué des pressions de sa hiérarchie. C'est un moment toujours très attendu par les parlementaires européens, le discours sur l'état de l'Union. Ursula von der Leyen a livré aujourd'hui son diagnostic et dévoilé sa feuille de route. La présidente de la Commission européenne veut relever l'objectif de réduction des gaz à effet de serre de 40 à 55% d'ici 2030. Elle a surtout affirmé vouloir abolir le règlement dit de Dublin, l'actuel système d'asile européen qui confie la responsabilité des demandes d'asile aux pays d'entrée des migrants dans l'UE.
Europe Soir. Le 22-22-30.
Ce devait être la plus belle étape de ce Tour de France, l'une des plus difficiles aussi. Et elle l'a été, la 17e étape entre Grenoble et Méribel avec son terrible col de la Lauze a été remportée par le Colombien Miguel Angel Lopez. Axel May.
À 26 ans, Miguel Angel Lopez est moins connu en France que son aîné Nairo Quintana ou que son jeune compatriote Egan Bernal. Mais Superman, comme il est surnommé, affiche déjà un palmarès qui en impose. Lauréat par le passé des Tours de l'Avenir, de Suisse et de Catalogne, double vainqueur d'étape sur la Vuelta et désormais vainqueur d'étape sur la Grande Boucle, sur un parcours s'achevant au-delà des 2000 mètres, altitude qu'apprécient toujours les grimpeurs colombiens. Cette arrivée inédite au sommet du col de la Lauze a pourtant fait mal à plus d'un coureur dans le peloton. Le prometteur Valentin Madouas termine 15e à plus de 4 minutes du vainqueur.
Franchement, c'est un des cols les plus durs que j'ai jamais monté. Les pentes sont impressionnantes. À un moment, j'ai cru qu'on allait poser pied par terre. C'est vraiment impressionnant.
Alors au classement général, Primoz Roglic, en finissant 2e de l'étape, conforte son maillot jaune. Il a près d'une minute d'avance désormais sur son dauphin et compatriote slovène Tadej Pogacar, qui chippe au passage le maillot à poids de meilleur grimpeur au français Benoît Cosnefroy. Et sur la 3e place du podium, un Colombien en chasse un autre, Uran, cède sa place à Lopez. Méribel, Axel May, Europe 1.
Demain, étape savoyarde, 175 km jusqu'à la Roche-sur-Foron avec au programme notamment la montée du plateau des Glières. Le foot, match en retard ce soir de la première journée de Ligue 1. Le PSG affronte le FC Metz. Julien Froment, vous êtes au Parc des Princes. Mais avant d'en venir à la rencontre en elle-même, la commission de discipline de la Ligue vient de rendre son verdict concernant certains des joueurs expulsés lors du PSG-OM de dimanche.
Oui, exactement. À commencer par Levin Kurzawa qui avait tout simplement mis un coup de pied à Jordan Amavi, il écope de 6 matchs fermes de suspension. De son côté, le Marseillais Amavi, lui, écope de 3 matchs de suspension. Concernant les autres joueurs, 2 matchs fermes plus 1 en sursis pour Neymar et Léo Paredes. Et le dernier joueur qui avait été expulsé, eh bien, c'est Dario Benedetto. Il écope, lui, d'un match ferme. Concernant l'affaire qu'il y a eu entre Neymar et Alvaro Gonzalez, eh bien, le dossier va être mis en instruction. Ainsi que André Di Maria qui avait craché sur ce même Alvaro Gonzalez. Il sera entendu le 23 septembre prochain devant la commission de discipline de la Ligue.
Julien, revenons au match. Quel est le score ?
Eh bien, 0-0, 330 minutes de jeu sans marquer pour le Paris Saint-Germain qui s'est créé pléthore d'occasions face à une équipe du FC Metz très recroquevillée devant sa défense. Mais Metz s'est créé aussi quelques occasions. On sent que le Paris Saint-Germain est clairement en manque de confiance. Pour rappel, cela faisait 35 ans, ça fait 35 ans que Paris n'a pas débuté un championnat de France par deux défaites consécutives. Donc voilà, toujours 0-0 ici au Parc des Princes après 55 minutes de jeu.
Merci beaucoup Julien Froment, on vous retrouve dans un petit quart d'heure pour un dernier point. On passe à la météo. Anissa Haddadi, soleil et chaleur au programme demain.
Oui, et pour tout le monde demain, Julien, ça fait du bien. La journée va commencer avec sur les côtes bretonnes, les côtes de la Manche et le golfe du Lion, avec des nuages au-dessus de vos têtes qui seront inoffensifs. Je vous rassure, sur les côtes du nord-ouest, là, le vent souffle toujours demain et ailleurs. C'est du grand et beau soleil, un soleil déjà bien présent dès le lever du jour. Et puis dans l'après-midi, ce soleil va briller sur l'ensemble du pays. Alors il fait beau partout demain avec un nouveau pic de chaleur dans le sud-ouest, mais vous allez le sentir et ça va faire du bien, on l'attendait. Nous aurons une légère baisse des températures sur la moitié nord demain avec 11 à 21 degrés demain matin du nord au sud et 20 à 28 degrés sur la moitié nord 29 à 36 degrés sur la moitié sud. Là, par contre, il fait très chaud. 20 degrés donc pour Dunkerque, 22 à Cherbourg, 24 à Lille demain, 25 à Caen, 28 à Nice, Lorient et Paris, 30 degrés pour Montpellier, 32 à Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, 33 degrés à Nîmes, 34 à Lyon et Carcassonne. Il fait encore chaud dans le sud-ouest avec 35 degrés à Bordeaux et 36 la maximale pour Mont-de-Marsan.
Merci Anissa Haddadi.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
La soirée à Wall Street a été animée par la fin de réunion monétaire de la Fed.
C'était le grand rendez-vous de la semaine et les indices sont partagés après le verdict de la réserve fédérale américaine. Le Dow Jones gagne 0,14%, 28 033 points. Le Nasdaq, lui, lâche 1,25%, 11 050 points. Jérôme Powell, le patron de la Fed, a revu en hausse ses prévisions économiques pour les États-Unis. Il table sur une baisse du PIB, le produit intérieur brut, de 3,7% cette année. C'est beaucoup, mais c'est mieux qu'en juin, même si les incertitudes sont encore très nombreuses. Et puis, comme on ne sait pas comment la crise sanitaire va évoluer, eh bien la Fed s'engage à maintenir ses taux d'intérêt bas aussi longtemps que nécessaire pour soutenir l'économie.
Donc baisse du PIB aux États-Unis de 3,7% alors que Bercy chez nous vient d'annoncer une baisse de 10%. Les valeurs technologiques ont été à nouveau sous pression à Wall Street.
Oui, plusieurs grandes techno plombent le Nasdaq ce soir. Adobe Systems perd 4,4% malgré des résultats de très bonne facture. Facebook perd 3,3%, Apple moins 3%. On a tout de même l'éditeur de logiciels cloud Snowflake qui a fait des débuts fracassants en bourse avec un doublement de son cours, le titre flambe de 120%. Plus grosse introduction en bourse de l'année aux États-Unis, Snowflake, qui a été fondée par deux ingénieurs français en 2012.
À Paris, les prises de risque se sont limitées au strict minimum avant la fin de cette réunion de la Fed.
Voilà, le CAC 40 a poursuivi timidement sur sa lancée. Il grappille encore 0,13%, 5074 points ce soir. Parmi les valeurs en hausse, on a celles qui sont liées au pétrole. Elles ont profité de la hausse des cours du brut. Vallourec bondit de 4,9%, Technip FMC plus 4,8%, et puis Alstom gagne 1%. Le constructeur ferroviaire a signé le contrat d'acquisition du Canadien Bombardier Transport avec un prix revu à la baisse. Les marchés européens ont terminé dans le vert, sauf Londres qui perd 0,4%. Francfort gagne 0,1%, Madrid plus 1,1%, Amsterdam plus 0,4%, Milan est stable, et à Paris, le CAC 40 gagne 0,1%, 5074 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com et à demain. 22h19 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Michaël Trabia.
Bonsoir Michaël Trabia.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur de l'innovation chez Orange. Si on a eu envie d'être en ligne avec vous ce soir, c'est pour parler de 5G. Ma première question va être très simple. Qu'est-ce que ça change pour moi, la 5G, pour tous nos auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment même?
La 5G, concrètement, elle va permettre d'absorber la croissance du trafic, d'abord pour chacun, puisque aujourd'hui, nous consommons tous 30 à 40% de plus tous les ans de données mobiles, et les réseaux actuels, 2G, 3G, 4G, arrivent à saturation, arrivent à bout de course, et donc on a besoin de nouvelles fréquences, de nouveaux réseaux pour y répondre. Et puis la 5G, c'est aussi de nouveaux usages autour du divertissement, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, et surtout pour les entreprises, l'industrie 4.0, les villes connectées, l'Internet des objets qui nécessite la 5G pour pouvoir connecter des millions d'objets dans France et dans le monde.
Si je comprends bien, à l'horizon de 2022-2023, si on restait à la 4G, on ne pourrait plus téléphoner, c'est ça que vous dites? Il n'y aurait plus assez de données transportables?
Eh bien, on aurait effectivement, à partir de l'année prochaine ou de 2022, des saturations, c'est-à-dire concrètement, chacun le voit parfois quand on a des problèmes de réseau, ça passe moins bien, on a du mal à accéder à ses mails, à accéder à une page web. Eh bien, ces phénomènes de saturation vont se multiplier si on n'est pas capable, effectivement, d'apporter de nouvelles capacités avec la 5G.
Donc là encore, de façon très concrète, chez vous, Orange, leader du marché, quand est-ce que la 5G sera disponible et quand est-ce que je devrais changer mon téléphone? Parce qu'il faudra changer de téléphone pour pouvoir bénéficier de la 5G.
Alors, notre objectif est de lancer la 5G dès la fin de cette année. Et après, pour le changement de téléphone, ça viendra progressivement. Et il n'est pas nécessaire que tout le monde change son téléphone tout de suite. Donc, ceux qui vont acheter un nouveau téléphone à Noël, par exemple, puisque La plupart, on aura de nombreux terminaux 5G qui vont sortir dès le deuxième semestre de cette année. Donc, à partir de maintenant, les gens qui vont s'équiper progressivement auront des téléphones 5G.
Chez vous, la 5G est déjà une réalité chez Orange. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'innovation. Vous faites déjà des tests depuis des années. Ça fonctionne donc, du coup, déjà aujourd'hui chez vous?
Ça fonctionne très bien. La 5G, elle a été lancée dans des dizaines de pays dans le monde. Et chez Orange, d'ailleurs, nous l'avons lancée en Roumanie dès l'année dernière. Nous venons de l'annoncer en Espagne. Et d'autres pays également sont prévus pour le lancement. On a lancé en Pologne également et bientôt en France.
Pour que ça fonctionne en France, il va falloir mettre des antennes un petit peu partout. Elles vont ressembler à quoi ces antennes et elles vont être où pour Orange ?
Eh bien, ça va être en réalité pas très différent de ce qu'on a aujourd'hui, puisqu'on va principalement réutiliser notre réseau d'antennes existant. Donc, ce seront principalement les mêmes sites. Donc, il n'y aura pas beaucoup de différence. Les gens ne verront pas forcément la différence avec la 5G que sans.
Alors, pour autant, on entend dire qu'avec ça, on va tomber malade, parce qu'il y aurait beaucoup plus d'ondes qui vont sortir de ces antennes, parce qu'elles seront tout simplement beaucoup plus puissantes pour absorber le trafic dont vous nous parliez tout à l'heure. Alors, vous n'allez pas me dire qu'on va tomber malade, mais de façon très, très, très concrète, comment vous pouvez éventuellement essayer de me rassurer ou de rassurer tous ceux qui ont peur en étant le plus objectif possible ?
Bon, je comprends bien que ce soit un débat et qu'il puisse y avoir des questions sur ces sujets-là, d'autant que les ondes, c'est quelque chose d'invisible, donc on peut effectivement en avoir peur. Ce qu'on peut dire sur ce sujet de manière très simple et factuelle, c'est qu'en réalité, ce sont des ondes qui existent déjà, qui sont déjà utilisées, qui sont très proches des fréquences Wi-Fi, par exemple. Et donc, c'est des ondes...
Ça, c'est vrai au démarrage, mais après, ces ondes vont être plus fortes.
On parle de puissance et on parle de fréquence, qui sont deux choses différentes. Donc la puissance que l'on va émettre, en réalité, elle est capée par les normes internationales, par les normes de l'OMS. Et ce que je peux dire là-dessus de manière assez factuelle, c'est qu'il y a des agences sanitaires indépendantes dans la plupart des pays du monde qui se prononcent sur ces sujets. On a déjà une quinzaine d'agences sanitaires qui ont dit que la 5G n'avait pas plus d'effet que les autres technologies. En réalité, on ne peut pas démontrer qu'il n'y a pas d'impact sanitaire. Tout ce qu'on peut faire, c'est observer les effets. Et depuis des dizaines d'années que les technologies radio existent, on n'a pas vu d'effet sanitaire des ondes. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut dire. Et ce sera pareil avec la 5G.
Mais là, on voit que le débat est fort. On voit qu'il y a des maires, notamment de gauche, des maires écologistes, qui ne veulent pas entendre parler de la 5G. Ce matin, sur l'antenne d'Europe 1, Barbara Pompili, qui est en charge de la transition écologique au gouvernement, dit « Au minimum, on a dû rater l'explication ». Vous l'avez raté, vous, chez Orange, leader du marché ?
Alors, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a un vrai sujet de société qui dépasse d'ailleurs la 5G. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est toutes les questions du progrès technologique qui sont questionnées. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que c'est vraiment utile ? On y a notre part, évidemment, et je pense qu'on doit être plus présent pour mieux expliquer l'intérêt, l'utilité de la 5G pour les grands publics comme pour l'entreprise, parce qu'encore une fois, c'est un enjeu de compétitivité pour nos entreprises. La 5G, l'industrie 4.0, aura besoin de la 5G. Et puis, il faut mieux expliquer aussi l'impact environnemental de la 5G du numérique, sans oublier d'ailleurs, on l'oublie trop souvent.
Il faut, ça veut dire quoi ? Vous allez, vous, par exemple, chez Orange, je rappelle que vous êtes en charge de l'innovation, vous allez faire quoi ? Lancer des campagnes de com, aller voir ces maires un par un ? Comment vous allez faire, par exemple, pour installer votre 5G à Lyon ? Vous allez essayer d'aller convaincre le maire de Lyon ?
Nous, on est des acteurs de terrain, on est présents, vous savez, dans les territoires, on est présents dans les communes, et donc on est dans le dialogue, on n'est pas dans le... On n'a aucune volonté de forcer les choses, on est dans une volonté de dialogue. Simplement, moi, ce que je veux rappeler, c'est que le numérique et la 5G en particulier ont en réalité un impact environnemental positif, puisque c'est grâce au numérique, c'est grâce à la 5G, grâce à l'Internet des objets, que nous pouvons déployer des usages comme les villes intelligentes, comme par exemple la collecte des déchets. Grâce à l'Internet des objets, on peut connecter des containers pour savoir quand est-ce qu'ils sont pleins, quand est-ce qu'ils sont vides, pouvoir optimiser la logistique pour pouvoir les ramasser. Et donc la 5G et le numérique, en fait, est un formidable accélérateur de la transition environnementale. Et les opposer est un contresens. On a besoin du numérique pour accélérer la transition environnementale.
Eh bien, merci beaucoup, Mickaël Trabia, le directeur de l'innovation d'Orange, qui était notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr. Restez avec nous, dans un instant on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain et faire un dernier crochet au Parc des Princes où le PSG est pour leur tenue en échec par le FC Metz. A tout de suite. 22h28 sur Europe 1, voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Impôts, déficit, croissance, les choix du gouvernement, titre Les Échos. Le journal économique qui publie demain une interview de Bruno Le Maire. Notre plan de relance produit déjà ses effets, affirme le ministre de l'économie. Il annonce notamment que les entreprises bénéficiant d'aides de l'État devront signer une charte des contreparties. Extrême droite, les ennemis de l'intérieur. Voilà ce que l'on peut lire en une de Libération. Hyper centralisé, mal implanté et fermé au débat, le RN de Marine Le Pen fait face à de violentes attaques en interne. Robert Ménard et Marion Maréchal n'hésitent pas publiquement à remettre en cause la gestion du parti, sa ligne politique et surtout la capacité de Marine Le Pen de remporter l'élection présidentielle de 2022. La Croix revient sur cette info dont je vous ai parlé précédemment, vers un allongement de l'IVG, titre Le Quotidien. Un rapport parlementaire propose qu'une interruption volontaire de grossesse puisse être pratiquée jusqu'à 14 semaines au lieu de 12 aujourd'hui. Dans son édito, Guillaume Goubert fulmine. S'il y a une urgence en matière d'avortement, ce n'est pas de le banaliser, mais de s'interroger sur les raisons pour lesquelles les IVG sont aussi nombreuses dans notre pays. Allez, comme promis, on fait un dernier crochet au Parc des Princes où le PSG vient d'être réduit à 10, Julien Froment.
Exactement, 70e minute de jeu, toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz. Et donc, Paris réduit à 10, c'est Abdou Diallo, le défenseur central, qui a écopé d'un deuxième carton jaune il y a quelques instants. Donc carton jaune plus carton jaune égale carton rouge. Et le Paris Saint-Germain va commencer à se demander, à savoir s'il aura suffisamment de joueurs pour disputer ses prochaines rencontres. Parce que les décisions de la commission de discipline sont tombées il y a quelques instants aussi. Lévin Kurzawa a écopé de 6 matchs fermes. Neymar, 2 matchs fermes plus 1 en sursis. Et également pour Paredes, 2 matchs fermes plus 1 match en sursis. À noter que André Di Maria, qui aurait craché en direction du défenseur marseillais Alvaro Gonzalez, André Di Maria va être entendu par cette même commission de discipline le 23 septembre prochain. C'est compliqué, très compliqué, Julien, pour ce Paris Saint-Germain qui n'arrive décidément pas à marquer et qui est pour le moment 18e de la Ligue 1, toujours 0-0, 71e minute de jeu entre Paris et le FC Metz.
Merci beaucoup Julien Froment, en direct du Parc des Princes pour Europe 1. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien, comment allez-vous ?
Je vous sens un peu concerné par ce que Julien Froment vient de nous raconter.
Alors, je suis concerné bien évidemment, et ma question à Julien Froment, peut-être il me y répondra, et vous m'y répondrez peut-être, Julien. Ouais. Est-ce que dans un club comme Liverpool ou le Bayern de Munich, on verrait la même chose et un pauvre 0-0 contre Metz ce soir pour l'instant, parce qu'ils sont à 10 et ça n'est pas fini. Et puis 1-0 contre Marseille. Bon, il va falloir du changement au PSG. Là.
Il y a plein de circonstances atténuantes, si je peux me permettre.
Il y a des circonstances atténuantes, mais
c'est vrai que c'est vrai qu'on a rarement vu ça. Je l'ai rappelé dans le journal de Julien Pierre, ça fait 35 ans que le PSG n'avait pas débuté son championnat par 2 défaites d'affilée. C'est vrai que c'est assez étonnant, mais bon, il y a encore du temps.
Ça donne tout de même l'impression que ça manque un peu de sérieux, tout ça.
Bon, c'est la libre antenne foot ce soir, comme vous l'avez compris, Olivier. 39-21 pour vous appeler et venir témoigner sur votre antenne.
Exactement, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.